9h34, mon Dieu, on a fait Alors, ouverture de la séance ordinaire, c'est 19h34, vous avez reçu l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? J'en aurais un, moi, à affaires municipales. Tour de l'Abitibi. C'est dommage, Miko n'est pas là. Avez-vous d'autres sujets à inscrire à l'ordre du jour? Sinon, je recevrai une proposition pour Marco Dénommé, Bruno Boyer. Oui, on peut en traiter quand même. Oui. On va dire après qu'on a décidé que c'était chez lui. Non,
j'ai une confirmation.
Parfait. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2019 à journée du 27 novembre. Donc, vous avez reçu le procès-verbal. Est-ce qu'il est conforme aux délibérations qu'on a tenues? Le 27 et le 28 novembre. Alors, je recevrai Alexandre, M. Laverdière. Merci.
Je te donne le 27.
Je vais faire le mot de la préfète ce soir. En fait, ça se passe en deux ou trois moments. Dans le mot de la préfète, j'aimerais remercier la municipalité de la Verlochère-en-Villiers du leadership qu'ils ont décidé d'assumer dans le dossier de la piscine. On aura certainement l'occasion d'en discuter ce soir puisque le point est inscrit à l'ordre du jour. Mais merci beaucoup, Daniel, d'avoir levé la main là-dessus. Je pense que tu as bien compris l'enjeu municipal puis l'enjeu territorial. Et je tiens à te remercier vraiment de ça. Par ailleurs, ce soir, on revoit nos comités, on fait une nomination de comités. Et je veux vous informer que, après une discussion, Daniel et moi, on convient que comme préfet suppléant, il fait vraiment une bonne job. Les qualités essentielles d'un préfet suppléant, c'est 1, sa compréhension des enjeux. Et ici, autour de la table, il y a quand même beaucoup de personnes qui détiennent cette qualité-là. C'est aussi un préfet suppléant, c'est aussi sa capacité à nourrir une discussion et une réflexion. J'ai dit lors du discours du budget que sa plus grande qualité à Daniel, c'était d'être pas toujours d'accord avec moi. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on est capable de discuter puis de faire avancer des réflexions au bénéfice de la MRC. Mais une qualité essentielle d'un préfet suppléant, c'est aussi d'être capable de se tenir debout à côté de moi quand il y a des dossiers difficiles. Je pense qu'on peut reconnaître que Daniel, il a vraiment ces qualités-là. Et en conséquence, je lui ai demandé, et il a accepté, de continuer à travailler comme préfet suppléant. Je suis très heureuse de ça. Moi, je suis une nouvelle élue autour de la table, quand même, ça fait 2 ans, là, mais on est une dizaine de nouveaux élus autour de la table. Il y a des élus d'expérience qui nous accompagnent. Le fait qu'on fasse cet équilibre-là aussi au niveau du préfet suppléant, je pense que c'est un bon signal qu'on ne veut pas passer la baraque, mais qu'on veut que ça avance bien. Alors, merci beaucoup, Daniel, de rester dans ces fonctions-là. J'apprécie vraiment ton engagement. Merci. Par ailleurs, le préfet suppléant et quelques membres du comité administratif m'accompagnaient hier ainsi que Lynn Gironne, pour rencontrer Mme la ministre André Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui était en région hier. Mme Laforêt elle avait entamé une tournée du Québec pour être en mesure de parler à d'être allée dans toutes les régions avant de renouveler le pacte fiscal. Ça n'avait pas pu être fait pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. À 2 occasions, elle a annoncé sa visite et elle a dû annuler sa visite. La première fois, c'est parce qu'on était dans les inondations. La deuxième fois, c'était parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait aucun des 5 préfets qui était sur le territoire quand elle s'annonçait. Alors, elle avait accepté de reporter sa rencontre. Donc, hier, elle annonçait les projets acceptés au FAR, au Fonds d'aide au rayonnement des régions, en compagnie de Pierre Dufour, notre ministre régional. Et elle rencontrait les élus pour valider certains éléments, entre autres sur l'aménagement du territoire, sur les programmes qui existent, sur les facilités auxquelles on est, sur les facilités qu'on rencontre. Conséquemment à ça, moi, je pourrais vous laisser donner vos commentaires sur Daniel, Carmen et Yves qui étaient là. Je pourrais vous laisser donner vos commentaires.
Oui, le nom de tu le préfet. Sous le préfet suppléant. Excusez. Non, mais à vous, j'aurais dit Madame Lata.
Oui, c'est vrai. Tu as bien raison.
Ouais, en fait, nous, on a pu, en fait, Yves, Carmen et moi, on a pu se joindre à la rencontre vers 13h30, parce qu'il y avait eu au début, il y avait eu une rencontre qui était avec les préfets et préfètes, qui était le dîner. Nous, on s'est joints à la rencontre vers 13h30, où c'est qu'ils ont fait les annonces du phare, tous les programmes qui ont été acceptés au phare. Et par la suite, vers 15h, ben, il y a eu une table ronde, que j'appelle, avec les élus et les préfets, préfètes de la MRC. C'était seulement nous autres qui étaient invités. Tu sais qu'on avait une série de questions qui nous étaient posées, puis que nous, on pouvait en poser aussi. Moi, je dirais qu'elle était très, très à l'écoute des dirigeants, des élus, des municipaux. Fait qu'on a pu discuter de certains problèmes qu'on avait dans chacune de nos municipalités. On a dû, Carmen et moi, quitter avant la fin parce qu'on avait la présentation de nos budgets à faire dans la soirée.
Le discours du budget.
Le discours du budget. Fait qu'on a manqué la fin. Mais ça a bien été, on a parlé un petit peu.
Ça n'a pas fini tellement plus tard qu'après votre départ.
Ben moi aussi, je l'ai trouvée très à l'écoute. Là. C'est une femme, premièrement, d'entrée de jeu, elle nous avisait qu'elle voulait nous entendre sur les problématiques qu'on avait à vivre, puis était là pour recevoir nos commentaires. Alors, moi aussi, je lui reconnaissais cette ouverture-là. Et un peu comme Daniel dit, bon, chacun exprimait. Moi, je suis allée sur les services de proximité. Sur les règles qu'on a actuellement par rapport à ça. Puis aussi, ce qu'elle me répond à ça, il n'y a pas eu de détails. Par contre, elle disait de se faire aider de notre député pour monter ses dossiers-là. Parce que moi, je me disais, tu sais, qu'on a quand même des règles contraignantes, là, puis jusqu'où on peut aller avec les services de proximité comme municipalité. Et je suis allée aussi sur les redditions de comptes. Qui, la plupart, puis M. Corbeil avait fait une intervention dans ce sens-là un peu avant, parce que, en tout cas, le directeur général chez nous dit que ça n'a plus de fun là, sur l'édition de compte, là, c'est vers mal à remplir ça. Donc, mais l'ensemble des discussions qu'il y avait autour de la table, et il y a des problèmes similaires en Abitibi ou l'autre aussi, quand on entend les tours de table, mais c'était super intéressant, une belle rencontre.
Ben écoutez, je suis obligé de dire la même chose. J'ai trouvé que c'était une personne qui était très à l'écoute, mais aussi elle m'a donné l'impression que c'était une personne où les bottines vont suivre les babines. Là. Elle est assez convaincante à ce niveau-là. J'ai eu l'occasion, j'avais un petit problème à régler, là. J'ai eu l'occasion de parler avec son chef de cabinet qui était présent aussi. Puis, envoie-moi les documents, puis on va faire le suivi, puis tout ça, c'est... sont vraiment...
Ils font les
la suivi. Réponse est...
Ils font les suivi.
La réponse est bonne. Jusqu'à maintenant, là, je suis impressionné.
Elle était très bien accompagnée. Là, elle avait son chef de cabinet. Elle n'était pas là juste pour... si on avait quelque chose, elle disait, là, aller voir le directeur de cabinet, poser-lui la question, donner-lui les informations, on va vous revenir, c'est certain. Je pense
C'était donc une belle rencontre, puis on a annoncé des projets. C'est important de vous dire que la Maison des jeunes ici, on ne pouvait pas le dire avant, ils ont signé leur protocole. La Maison des jeunes a levé un projet important pour l'ensemble de Témiscamingue. Ils sont allés chercher la totalité du financement qu'ils sollicitaient pour un projet sur tout le territoire de Témiscamingue de maison des jeunes en milieu rural. Puis c'est important de le souligner, il était là hier, il était fier, les maisons des jeunes de toute la région étaient là. Il y a une belle dynamique dans ces projets-là qui ont été adoptés au phare. Il y a sept projets, Il y avait évidemment le GIRAT, là, la contribution du phare pour attacher le projet du GIRAT, Archéo 08. Il y avait les bornes de recharge rapide avec le Conseil régional en environnement. Il y avait les maisons des jeunes. Et là, c'est sûr, j'oublie tous les autres, là, mais il y a 7 projets qui ont été acceptés hier, 7 beaux projets. C'est pas régional, là. C'est les projets du phare, c'est le rayonnement des régions.
Pour, oui, la, pour la maison des jeunes, c'est un montant de 111 000 $ qui revient au Témiscamingue.
C'est ça.
Tandis que dans les autres, les autres secteurs, c'était 42 000 $. Mais pour le Témiscamingue, c'est 111 000 $.
Ils font la... Non seulement, il y avait plus grand, mais ils font la coordination.
C'est ça,
ils font
la coordination.
Par ailleurs, je vous ai mis également dans le message de la préfète, lors du jour de la réunion qu'on a eue au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Ici, je pose la question, est-ce qu'il va falloir que je vous appelle, parce que tout le monde est membre, à l'exception de la ville de Ville-Marie. Puis là, Michel, il y avait une discussion, est-ce qu'on est membre, est-ce qu'on n'est pas membre, il faut que je vérifie. Fait que je vais te relancer là-dessus. Parce que tu avais mentionné ton intérêt, là. Mais j'espère que vous allez renouveler ce membership-là. C'est vraiment intéressant. On l'a un peu campé au moment du budget. Vous avez, lors du jour, vous avez les sujets dont il a été question. Un en particulier dont j'aimerais vous parler, c'est on a rencontré la ministre du Tourisme sur le projet de la réforme... ou une réglementation qui s'apprêtait à mettre en garde sur réglementer les Airbnb de ce monde. Et ce qu'il s'apprêtait à proposer, c'était que les Airbnb, les seules résidences qui seraient autorisées à passer sur Airbnb étaient la résidence principale d'un propriétaire et non pas les résidences secondaires, les chalets et tout ça. Ça ne pouvait pas aller sur Airbnb et on a été plusieurs à indiquer à la ministre que, un, c'était une contrainte. La problématique vient des tours à condos de Montréal ou de Québec ou la tour du Canadien, par exemple, où tous les appartements appartiennent à des gens qui ne font que les louer. Puis les quelques malheureux qui veulent y rester n'ont pas une qualité de vie très intéressante parce que c'est le gros party tout le temps là-dedans. Et on a rappelé que c'était très facile à contourner. Et que surtout, il y avait la MRC et le pouvoir municipal faisant en sorte qu'on pouvait faire de l'aménagement de territoire et faire du zonage dans nos territoires de MRC et de municipalités pour déterminer les lieux où tu fais de l'activité de villégiature, de l'activité de résidence et des activités à caractère commercial. Airbnb rentre dans les activités à caractère commercial. Et là, il y a eu toute une discussion parce qu'il y avait aussi toute la question des résidences en milieu agricole. Tu ne peux pas avoir d'activité commerciale en milieu agricole. Fait qu'il y avait toute cette question-là. Bref, je nous invite, nous, comme MRC, comme FQM, mais on reste tout le monde très alerte sur le projet de réglementation de la ministre. L'objet du projet de réglementation est approprié, c'est d'avoir un meilleur contrôle de où ça se passe, puis de réclamer les taxes d'hôtellerie qui sont associées à des activités hôtelières. Mais la manière dont c'était pensé peut correspondre à des besoins urbains, ne correspond pas du tout aux réalités de villégiature, au bord de lac, Alors, les Laurentides, la Gaspésie, nous, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout le monde est allé au front pour dire à la ministre qu'il fallait qu'elle voie son projet de règlement. Alors, projet législatif. Alors, c'est à surveiller. Ça, c'était une des discussions. L'autre discussion, bien, ça peut être très long. L'élection sur ce point-là n'a pas été très longue. Je serai présidente du congrès de la FQM en 2021. Je suis donc vice-présidente du congrès de l'an prochain, de 2020. C'est dès que tu t'enlignes pour la présidence du congrès l'année précédente, tu es vice-présidente. Alors, en 2021, je serai présidente du congrès de la FQM. Ça se tiendra à Québec. C'est le congrès juste avant l'élection municipale 2021, l'échéance de novembre 2021. Et c'est l'année avant le Congrès de Montréal en année électorale provinciale. Alors, je m'assurerai qu'on soit une bonne délégation du Témiscamingue à ce moment-là. Mais dès maintenant, je peux vous dire que la thématique du congrès sur lequel on a justement travaillé aujourd'hui en 2020, ça va être un congrès très intéressant qui va probablement beaucoup vous allumer. Sinon, Monsieur Ouellet, 2020, c'est 24 au 26 septembre 2020. Si vous voulez aller au congrès, je vous invite à faire vos réservations de chambres tout de suite parce que le Hilton est fermé toute l'année 2020 pour des rénovations majeures. Alors, ça coupe un bloc de chambres très important à Québec.
Puis vous êtes déjà au
Manoir Victoria. Manoir Victoria. Sinon... Oui, vous allez venir avoir un bon spectacle, non? Alors, ça, c'était le mot de la préfète. Puis pour la FQM, pour les, vous avez l'heure du jour. Si vous avez quelques questions que ce soit, je vous invite à me poser la question. Puis si je n'ai pas la réponse, je pourrais vous référer à l'attaché ou au conseiller qui traite du dossier. N'hésitez pas à le faire. Ce sera un plaisir de vous répondre. Alors, on passe au point 5, période de questions de l'assistance. Alors, on va passer au point 6. Je vous rappelle de parler fort et de vous nommer, s'il vous plaît. On est toujours enregistré.
Mon nom est Gilles Lebert, citoyenne de Rainville. Lorsque j'ai fait un peu l'étude de votre budget, ça devient apparent que le secteur sud a connu une baisse très marquée d'évaluation immobilière, malgré de forts montants investis dans ce secteur-là. Dans les dernières décennies, on a investi plus de 400 millions, puis ça ne fait pas du privé, là. Ça fait de l'argent communautaire, pas nécessairement de la MRC. Ma question est la suivante. Comment expliquer cette contradiction au point de vue économique? Parce que là, en baissant d'évaluation, malgré un gros effort de développement, c'est toute la région là, qui se trouve être pénalisée. Il doit y avoir une raison pourquoi que les propriétés là-bas baissent à ce point.
Moi, je vais demander à M. Ouellet, est-ce que vous avez une explication? Pourquoi? D'abord, est-ce que la richesse foncière a diminué? Et pourquoi? Est-ce que vous avez une explication à offrir à M. Lepage sur cette question-là?
Écoutez, je pense qu'il y avait eu à Témiscamingue, le dernier rôle, il y avait eu une hausse quand même assez marquée.
Importante.
Puis, là, avec le dernier rôle, c'est presque revenu à ce que c'était avant. Il y a eu un pic à un moment donné, puis là, c'est revenu. Je sais que nous, on avait contesté l'évaluation de Tembec dans le temps, ça n'avait pas encore réuni. On avait perdu. Là, l'évaluation était refaite, puis ça explique, bien, c'est le plus gros. Hein. C'est notre plus gros contribuable. Ça explique probablement ça va plafonner.
Il faut savoir que l'évaluation, le rôle d'évaluation, c'est toujours basé sur les comparables et les transactions sur les propriétés qu'il y a durant la période qui concerne l'évaluation. On ne l'invente pas, l'évaluation. C'est vraiment basé sur les activités commerciales, les ventes et achats de bâtiments dans une période donnée. C'est ce qui sont les comparables. Peut-être que ça avait monté beaucoup, que ça baisse là, mais c'est le marché qui détermine la nature de l'évaluation municipale. C'est notre rôle, nous, c'est de camper ce que le marché a réalisé comme transaction. La MRC est responsable du rôle d'évaluation. mais on n'a pas d'influence sur les transactions en tant que telles. C'est le consommateur, les acheteurs et les vendeurs qui établissent les données du marché.
Tu comprends bien, le développement économique n'apporte pas automatiquement une valorisation du milieu.
Des propriétés, pas nécessairement du milieu. Des propriétés, ça peut être le cas effectivement. Mais de façon générale, le développement économique peut apporter une amélioration de la qualité de vie du milieu par de l'activité supplémentaire, sauf que ça peut ne pas se traduire sur la valeur des propriétés.
Exactement. Parce que, si je peux rajouter à ça, c'est le béton puis l'acier qui est évalué. Là. C'est pas l'activité. Si l'usine était là, puis elle serait fermée, puis elle ferait $0 de profit, l'évaluation resterait la même. C'est pas l'activité. Christelle peut me corriger, là, mais c'est la bâtisse. C'est le bâtiment, puis...
La RFU, c'est le bâti. Peut-être que M. Young, vous avez un commentaire à faire?
Bien, je suis en accord avec M. le maire de Témiscamingue. C'est les grosses usines qui disent comment les taxes vont être hautes. Je pense que dans la municipalité de Kipawa, on n'a pas des grosses usines, mais des évaluations.
Mais ils ont quand même baissé.
Moi, ce qui me choque. On va avoir une nouvelle évaluation l'année prochaine.
Parce que même le bord des cours d'eau a baissé. Si on compare, on prend le Moffett, parce que je prends au hasard, eux ont eu une augmentation. Je ne pense pas que ce soit un développement économique monstre, mais c'est bien, tant mieux.
Ça n'a pas de lien. C'est ce qu'on vous explique, c'est ce qu'on vous dit. Ça n'a pas de lien. Ce qui détermine l'évaluation foncière, c'est les comparables, c'est le marché. Ça n'a pas rapport avec le développement économique, avec le développement du milieu. Ça n'a pas rapport avec ça. Peut-être que le développement économique peut amener une surenchère. On l'a vu à Rouen, par exemple. On le voit beaucoup en Abitibi. Par ailleurs, il y a du développement économique important dans la région d'Abitibi-Ouest. Et là aussi, la richesse foncière a diminué. Dans ce contexte-là, c'est la valeur des transactions commerciales qui fait l'évaluation foncière.
Et normalement, quand tu as des salaires de 80 000 $ par année, logiquement, tu es en mesure de maintenir, en tout cas, c'est parce que ça devient dangereux là, lorsqu'un secteur où la richesse est palpable contribue moins au développement de l'ensemble de la région. Mais ça semble être correct. C'est correct.
Je pense que de laisser entendre que parce que la richesse foncière est moins élevée, il contribue moins, on n'est vraiment pas là. La richesse foncière sert particulièrement à déterminer la taxation des citoyens, la taxation des propriétaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne contribuent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'amènent pas leur juste part, et ça ne veut pas dire que le secteur sud de notre territoire ne contribue pas à la richesse collective et à la qualité de vie du milieu. Que ce soit très clair.
Pour les cotes-parts, il fait moins.
Pour les cotes-parts, effectivement. C'est ça. Fait que,
parce qu'un corps.
C'est ça. Alors, est-ce que vous avez une autre question?
Oui, il y aurait un sujet tout à fait. Dans le plan stratégique, on accède beaucoup sur la démographie. Puis cette semaine, on nous a appris que le Témiscamingue aurait une baisse encore marquée au niveau de la démographie, qui irait jusqu'à 1500 de population.
Non. Les statistiques ont fait une projection, mais la donnée réelle, c'est une baisse de 1,4%. C'est moins de 100 personnes dans la dernière année. Et la statistique dont vous faites part, c'est une projection. Ils ont fait des projections, l'Institut de la statistique a fait des projections pour l'ensemble des régions du Québec et des MRC. Et effectivement, ils voient des baisses significatives dans plusieurs MRC du Québec, alors que des gestes très concrets se posent pour contrer cet effet-là. Alors, moi, je ne travaille pas sur les projections, on travaille sur le concret ici. Puis, ces projections-là, pour les avoir vues à plusieurs reprises, ne pas être rencontrées, autant à la hausse qu'à la baisse, soit dit en passant, je travaille sur le concret. Et je pense que l'équipe ici est invitée à travailler sur du concret. Puis c'est ce qu'on fait, notamment avec la stratégie d'attractivité.
Puis si jamais ils ont raison, est-ce qu'on a un plan B?
On est déjà dans le plan C, parce qu'on est en train de réaliser le plan A, on est en train d'écrire le plan B, puis on est en train de penser le plan C. Nous, on a choisi de se donner des moyens puis une vision sur les 20 prochaines années de ce que peut devenir notre territoire. La planif stratégique, c'est sur 5 ans, mais la vision qui est derrière ça, elle nous projette dans 20 ans. Puis on travaille sur des pôles d'expertise, on travaille sur de l'attractivité de territoire. Ce que nous, ce sur quoi on mise, puis on a déjà constaté qu'avec la stratégie, il y a un ralentissement dans la perte de population. C'est déjà pas si mal en 2 ans et demi. Il y a un ralentissement dans la perte de population. Et ce que nous, on vise, c'est vraiment de mettre en lumière la qualité du territoire où on peut vivre, puis d'attirer des nouvelles populations. D'abord, d'arrêter de perdre les nôtres, puis d'attirer des nouvelles populations. Alors, moi, je suis même pas à me dire d'un coup que ce serait pas bon. Je pense même pas à ça. Y penser, là, c'est se mettre en mode défaitiste. On n'est pas là. On n'est juste pas là. Ça, c'est clair? Ça, c'est clair.
C'est bien.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, elle va être courte. On nous disait qu'il y aurait 5 % du territoire qui ne serait pas desservi par Internet haute vitesse et le cellulaire. Ce 5 %-là se situe où?
Dans les TNO.
Du Témiscamingue?
Dans les TNO, oui. Puis, Alexandre?
On ne parle pas de 5 % du territoire, mais 5 % de la population. Le projet Mobile Agri vise à desservir 95 % de la population.
Et cette population-là, elle se retrouve principalement dans les territoires non organisés.
Bien, on va parler de ça, il y en a plusieurs à Kipawa.
Oui, exact.
Avec la tour, ça
n'a pas fait. Est-ce en marche, la tour à Kipawa?
Oui.
Elle est en marche?
Oui.
Puis le tard, ça devrait être aujourd'hui ou demain?
Ou à soir.
À soir.
Appel.
C'est bien, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer maintenant au point 6, les grandes priorités de la MRC. Alors, pour le développement de la filière hydroélectrique communautaire, le projet Numiki, je pense que c'est important de... On est toujours en mode de sensibilisation et hier, on a eu une discussion avec Mme Laforêt et M. Dufour. On rappelait l'importance de ces projets-là. Madame, pour les territoires comme le nôtre et du projet Numiki particulièrement, Madame Laforêt est particulièrement attentive à nos commentaires et à cette possibilité-là, parce qu'entre autres, elle connaît la valeur de ces projets-là. Il y en a quelques-uns dans les MRC de la région. Elle est ministre régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a quand même quelques projets hydroélectriques là-bas. Elle se montrait très sensible. Nous, on mettait en lumière la valeur des projets de mini-centrales et on mettait en valeur l'impact que ça a sur les communautés. Puisque la rencontre que la ministre tenait, la ministre avait invité Suzanne Blais et également Émilie Lessard-Terrien à se joindre à cette rencontre-là. Nous, on avait convié notre députée à assister à la rencontre en privé qu'on avait avec Mme Laforêt et M. Dufour. Et Mme Laforêt est allée très directement, elle s'est adressée très directement à Émilie pour lui demander si elle appuyait le projet. Et Émilie lui a répondu que oui, elle appuyait le projet de mini-centrale hydroélectrique. Alors, je pense que elle l'avait affirmé en campagne électorale, mais hier, l'affirmation a été très bien reçue de la part des participants à la rencontre. C'est aussi un point qu'on a discuté avec Mme Lessard-Terrien et son adjointe, Mme Lefloué, qui était venue me rencontrer le vendredi 13 dernier. Vous avez probablement reçu le compte-rendu qui a été préparé. Non, pas encore. Alors, vous recevrez dans les prochains jours le compte-rendu qui a été préparé par Daniel Dufault, qui assistait à cette rencontre-là. Et il a été question de de tout ce qu'on fait comme travail actuellement pour faire évoluer le dossier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur le sujet? Alors, on passe au point suivi des grandes priorités. Téléphonie cellulaire, ben, je pense que la question a été posée. Il y avait les tours qui se mettent en fonction. Je vais te laisser la parole, Alexandre, parce que vous étiez sur la touche là-dessus aujourd'hui.
Oui, ben c'est ça, on a émis un communiqué, une mise à jour en fait de où est-ce qu'on était rendu avec ça. On avait parlé de 6 sites qui étaient prévus en 2019. Finalement, c'est 4 sites qui vont être livrés. Il y a 2 de ces sites-là. On parle des sites de Vassan, Landrienne, Belterre et Kipawa, qui vont... en tout cas, Belterre devrait l'être ce soir ou demain matin. On attend la plage. Il y avait une question de météo aussi là-dedans. Là. Donc, ça devrait être fait vraiment de manière dans les prochaines heures. Les 2 autres qui n'ont pas été faites tout de suite, c'était dû à des demandes, je pense, à la CPTAQ, qui ont pris un petit peu plus de temps que prévu. Même si, en tout cas, il y a ça, ou des demandes de permis là, qui prennent un petit peu plus de temps que prévu. Mais il y a une autre chose qu'on annonçait aussi, c'est qu'avec... avec Bell, on a convenu d'accélérer le déploiement des sites pour que l'essentiel des sites restants, là, on avait prévu 13 sites en 2020, 13 autres sites en 2021, on va essayer de faire l'essentiel de ces sites-là en 2020. Donc ça va sûrement dépasser un petit peu en 2021, là, mais c'est ce qu'on... Donc on a vraiment raccourci là, le calendrier. Je sais que tantôt j'avais parlé avec aussi Norm, là, qui m'avait posé une question, à savoir à Kipawa, le déploiement, qu'est-ce que ça avait représenté là, comme modification à la couverture. J'ai fait les recherches parce que je n'étais pas au courant très précisément là, de ce dossier-là. Ce que c'est à Kipawa, en fait, il y avait déjà une tour qui était avec la technologie 3G. Puis là, le projet, c'était de changer la technologie 3G pour une technologie 4G, le LTE Advanced. Donc, ça n'a pas eu d'impact significatif. S'il y a eu une augmentation de la couverture, c'est très minime. C'est plutôt une augmentation de la capacité puis du nombre de connexions prévues pour ce site-là. Tandis que le site de Belterre, lui, c'était vraiment sur le tour existant. C'est des nouvelles antennes macro qui ont été installées. Donc, mais il y a toujours... ça va continuer en tant que tel. Là. Je sais qu'en 2020, on parle aussi de couvrir le parc de la Vérendrye. On sait aussi qu'il y aura le lac Boldies, plus proche de Kipawa, là, qui devrait couvrir davantage le site du parc au Pemmican. Donc, mais tu sais, je sais qu'il y avait peut-être des attentes par rapport à la couverture à Kipawa même, mais le projet qui a été déployé là, c'était un projet de changement technologique. Changement de 3G à 4G. Donc, voilà où ça est rendu.
C'est pratique d'avoir le président du GIRAT autour de la table. Merci beaucoup pour les informations.
Mais quand on a parlé de ça...
Quand on a commencé à parler de ça, Kipawa, parce qu'on a manqué la dernière fois pour la couverture cellulaire, Kipawa, tu vas être le premier. Oui, on est le premier de recevoir pas de service. Je vais dire, Bruno, en bon français, don't hold your breath for the cellular service.
Comment?
Parce que Non, les bref, tu m'as dit ça en français. Ça vient pas comme ça. Parce que les autres ont dit, ça va venir. Kipawa, attends, ça va venir. Parce que j'ai poussé fort pour Kipawa. Et les citoyens qui déjà recevaient la service, ça montait un petit peu, un bar de plus. Les autres qui ne recevaient pas de service, aujourd'hui, il n'y a pas de service. Puis quand on a parlé de cet projet, ça va venir, ça va couvrir tout le Québec.
Oui, c'est une chance comme que ça avait été présenté.
Les projets en 2 années, parce que tout le monde est choqué. Qu'est-ce qui passe avec notre salle service? On n'a pas de service. Moi, j'aimerais ça de rencontrer...
Charles Gosselin.
Oui, les personnes en charge de ça.
Oui.
Ça n'a pas de bon sens. Ça parle, on va faire ci, on va faire ça. Puis c'est Témiscamingue encore, le comté Témiscamingue, on est tout le temps.
Je vais. J'entends ce que vous dites. Moi, je vais faire un appel à Charles Gosselin demain là-dessus, particulièrement. Toi, Alexandre.
On va peut-être juste dire, quand on parle du comté Témiscamingue, là, je pense que On a démontré dans le projet que la MRC de Témiscamingue est une des MRC qui est les plus avantageuses dans le projet en termes d'investissement par rapport au type de couverture qu'on a, si c'est pas le double de d'autres MRC. Il faut comprendre que le projet aussi, comme je disais tantôt, la question qui était posée, on augmente la couverture. C'est pas une notion de dire on va couvrir tout. La topographie, c'est quelque chose qu'on, même si on a envie, on ne changera pas ça. Si on habite de l'autre côté d'une colline, mettons en descendant vers le lac, puis que la tour n'est pas en face de nous, est en arrière de la colline, on ne pourra pas avoir une situation où on couvre totalement le territoire. Puis là, je comprends que les attentes, on a tendance à s'en faire des grandes. Des fois, on parle de 50 km, des choses comme ça, mais une macro, c'est un rayon de 16 km dans un contexte où la topographie elle est bonne, ce qui n'est pas le contexte évident au Témiscamingue puis en Abitibi. Puis, tu sais, le projet, quand on dit qu'il est livré, c'est qu'il était conçu à la base comme étant un projet de transformation technologique à Kipawa. Puis l'augmentation au niveau du territoire de Kipawa va venir des prochaines livraisons, par exemple au lac Boldies. Bien, si on pense, tu sais, je peux comprendre quand on dit « don't hold your breath », là, mais en même temps, ces projets-là avancent, il y en a plusieurs de livrés, puis il va continuer d'en avoir d'autres en 2020, puis quelques-uns aussi en 2021. Là.
Mais c'est choquant pour du monde qui peut voir quand les autres ouvrent leurs rideaux et les autres peuvent garder le tour.
Oui. On n'a pas de service. Tu peux pas dire que oui, ça va venir, mais...
Il y a une chose qui a été demandée. Moi, suite à la demande que...
Veux-tu l'appeler, toi, Charles?
Bien, chose certaine, suite à la demande qu'on a eue de Norme, la question, moi, j'ai demandé... Je sais qu'après les fêtes, il va y avoir des gens de l'équipe technique de Bell qui vont venir valider sur le terrain différents scénarios au niveau de la couverture, à savoir s'il n'y aura pas des optimisations possibles à faire.
Mais tu vas faire le suivi avec Norm?
C'est déjà technique
aussi. Faire le suivi avec Kipawa, là.
Oui, il va y avoir un suivi. On a déjà commencé là, la discussion là-dessus.
Et?
Bien, je suis content là, d'avoir la vérité, si on peut appeler ça. Non? Parce que moi aussi, pour utiliser un beau mot français, monsieur Young, puis moi, on passe pour des bullshitters un petit peu, là, parce que ce qu'on nous avait dit, c'était que ça allait être couvert. Il n'y avait pas de question de passer au 4G ou n'importe quoi pour ceux qui ont déjà le 3G. Là, je vais être capable de dire la vérité. On va dire, écoutez, oubliez ça pour l'instant. Lorsqu'on va savoir si vous allez couvrir un jour, on vous le dira. Parce que la question, moi, la raison que j'interviens, c'est parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs du lac Témiscamingue qui sont des du lac Kipawa qui sont de Témiscamingue. Mon bateau, il est sur le lac Kipawa.
Okay.
Puis les gens s'attendaient, bien, ça va être une sécurité, si on peut avoir un signal, c'est sur le lac, t'as ton cellulaire. Genre. Là, c'est loin d'être ça pour tout de suite. Là, fait que...
Mais le suivi peut se faire avec Norm et avec Yves. Moi, je peux appeler Charles. Là. La question, c'est qu'on ne laisse pas tomber. Quand ils sont venus ici, le Girafe, ils ont parlé des couvertures, puis on a bien entendu.
Il y avait une carte de couverture aussi. Hein, puis là, on respecte cette carte-là. C'est sûr qu'une carte de couverture, c'est une carte qui est théorique. Puis on sait, il faut comprendre que en changeant de technologie, de 3G à 4G, ce qui était le projet prévu pour Kipawa, c'est un projet, comme je disais, qui n'était pas un projet d'augmentation de la couverture, mais un projet d'augmentation de la capacité de ce site-là. Puis ça a été livré. Il y aura d'autres projets aussi qui s'en viennent, comme le lac Boldies, qui devrait couvrir une partie intéressante là, de la 101 au sud, puis couvrir davantage. Là. Mais ça, c'est un site macro qui va être livré là, dans le futur. Mais le projet, tu sais, il faut se rappeler que c'est un projet, qui est énorme. C'est quand même le plus gros projet de déploiement de réseau cellulaire au Canada. Déjà d'avoir eu Ben qui travaille avec nous pour compresser les chantiers, ça a déjà été quelque chose d'intéressant à travailler. Puis on sait que il y a des améliorations aussi. Tu sais, encore quand on parlait du Témiscamingue, là, il y a un projet sur lequel on travaille, je pense, au niveau d'Anglier, la branche Anglier, secteur Anglier, qui avait une méso qui devrait être peut-être transformée en macro à cet endroit-là. Au niveau du projet global, ça ne devrait pas changer dans les coûts, mais tu sais, il y a encore des bonifications possibles à faire, comme par exemple à cet endroit-là.
Dans ce contexte-là, moi, on va clore la discussion là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est suivi. Moi, je peux parler à Charles, mais je pense que le suivi, quand l'équipe de Belle va venir sur le territoire, faut que les deux masses soient rencontrées. Je nous suggère d'être actifs là-dessus pour s'assurer que ce secteur-là soit, mettons, qu'il y ait des discussions, là, puis que les gens puissent à tout le moins y dire, puis s'il y a moyen, que le service soit amélioré. Ça, je pense que... on peut s'engager à le faire.
On peut certainement s'engager à le faire. Puis comme je disais, déjà, les équipes techniques de Belle vont venir pour faire potentiellement une calibration ou peut-être améliorer. Mais quand on peut pas faire de miracle non plus là, avec ça. Le site est à tel endroit. Puis il y en aura d'autres qui s'en viennent aussi.
Quand les autres vont s'installer.
Il faut toujours se rappeler que c'est un projet qui couvre 95% de la population. Faut pas partir avec une présomption que 100% du territoire va être couvert. Peut-être des fois, on peut s'imaginer ça, là, mais c'est un projet d'amélioration significative là, de la couverture.
Mais on s'engage à faire les suivis.
Oui, c'est déjà commencé.
Alors, point 6.3, planification stratégique. On est toujours en mode stratégie d'attractivité. On prévoit une campagne promotionnelle active en cours de 2020. Et il y aura certainement des suivis qui vont être faits au niveau des maires, parce qu'actuellement, on prépare une campagne où on va retourner dans les municipalités pour que vous soyez informés, mais aussi qu'on soit tout le monde plus actif sur la promotion du territoire, sur les gestes à poser. Ça, c'est sur la stratégie d'attractivité et c'est Catherine qui sera au front sur cette action-là. Par ailleurs, sur les pôles d'innovation, les deux pôles d'excellence qui sont portés par la MRC, les énergies renouvelables, c'est ça, on fait le travail qu'on doit faire sur Onimiki et le comité économique, on n'a pas eu l'opportunité de le convoquer avant Noël, mais dans les premiers jours de janvier, ce sera fait. Et sur le pôle d'excellence, sur les nouvelles formes d'agriculture,